mémoire de l'histoire.
Les grands portraits sur Europe 1.
C'est du plus célèbre, un des plus célèbres romantiques dont Franck Ferrand a choisi de nous parler aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Bénédicte, bonjour à tous. Nous allons en effet mettre nos pas dans ceux de Lord Byron. Et au plaisir que nous avons pris à préparer cette émission, je crois pouvoir prédire un bon moment à nos auditeurs. D'autant plus que notre invité parle de cette époque et de ce personnage comme personne. Je suis heureux de recevoir Daniel Salvatore Schiffer.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Fiona sur les origines du foie gras.
Ah ben voilà un sujet brûlant, comme tant d'autres, me direz-vous, par les temps qui courent. Pour le moment, nous avons rendez-vous avec le plus beau, le plus controversé des romantiques, héros de l'indépendance grecque aussi. Nous avons rendez-vous avec George Gordon Byron.
Europe 1. Cœur de l'histoire.
Les grands portraits.
Franck Ferrand.
Cet avril, à Venise, c'est le printemps sur la lagune. Nous sommes en 1819 et Byron a déjà 31 ans. Lorsque vous savez qu'il mourra jeune, très jeune, on pourrait presque dire qu'il entre dans la dernière partie de sa vie. Oh, Byron connaît très bien l'Italie en général et il connaît particulièrement bien Venise. Il a voyagé à Milan, à Rome, mais Venise, c'est différent. Il y vient régulièrement depuis 3 ans et je crois qu'on peut dire qu'il s'agit de sa ville préférée. Voilà ce que nous dit Daniel Salvatore Schiffer dans sa biographie de Lord Byron. Venise, dont la légendaire légèreté des mœurs avait déjà fait une partie de sa glorieuse réputation, était pourtant joyeuse et festive. Sur l'élégante place Saint-Marc, alors considérée comme le plus beau et riche salon d'Europe, les cafés dont le célèbre Florian ne désemplissait pas et la musique y battait son plein. Byron aimait l'écouter, cette musique, l'oreille distraite par les cancans d'une aristocratie quelque peu frelatée, les désuètes mais sympathiques sérénades interprétées à la terrasse des restaurants bondés par un petit orchestre de chambre. Voilà ce que, dans son propre journal, Byron écrit de sa plume. « Venise me plaît autant que je m'y attendais et j'attendais beaucoup. » C'est une de ces villes que je connais avant de les voir et après l'Orient, le lieu du monde dont j'ai toujours le plus rêvé. J'aime la gaieté mélancolique de leurs gondoles et le silence de leurs canaux. Je ne déteste même pas la décadence évidente de la ville, bien que je regrette la singularité de ses costumes disparus. Presque tous les grands thèmes de Byron sont entre parenthèses dans ces quelques lignes. Nous aurons tout à l'heure l'occasion d'y revenir. Il écrit également à un ami, parce que lorsqu'on parle de Byron, les aventures sentimentales ne sont jamais très loin. « Venise est une ville très propice aux femmes. J'aime beaucoup leur dialecte et leur manière. » C'est vrai qu'on ne parlait pas tout à fait de la même façon à Venise et qu'on ne s'y comportait peut-être pas exactement pareil que dans le reste de l'Italie. Et il ajoute « Il y a en elle une naïveté qui est très séduisante et la poésie du lieu est un puissant auxiliaire. » Et oui, c'est vrai, tout le monde vous le dira, lorsque vous êtes à Venise, les émotions sont décuplées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Ne partez jamais à Venise si vous êtes très triste, car vraiment, vous y serez désespéré au retour. On peut dire de Byron qu'il a toujours l'œil aux aguets, bien entendu. Il ne va pas tarder à rencontrer l'épouse d'un marchand de tissus, puis la femme d'un boulanger. On le voit fréquenter un peu les prostituées aussi, y compris des prostituées masculines, nous y viendrons tout à l'heure. Il a une vie, disons-le, tout à fait débauchée, mais là, il va tomber en arrêt, d'une certaine manière, devant Teresa Guiccioli. On est là dans le salon de la comtesse Benzoni, la contessa, n'est-ce pas? Et vraiment, cette Teresa qui a 19 ans tout juste, avec des cheveux blonds comme dans les tableaux du Titien, avec des dents parfaitement alignées, avec ses jambes peut-être un peu courtes, mais un buste ravissant, elle est exactement ce que pouvait souhaiter, ce que pouvait désirer Byron. Il la reconnaît car il l'a vue à son mariage quelques mois plus tôt. Teresa Guiccioli est une femme mariée à 19 ans. À cette époque, ce n'était pas si rare du reste. Teresa Guiccioli est l'épouse d'un richissime sexagénaire, seigneur de Ravenne, donc Alexandre Guiccioli, que la rumeur accuse du meurtre d'un curé et même de l'assassinat de sa première épouse. Donc vous voyez que la jeune femme a pour époux quelqu'un de pas très recommandable a priori. Or, elle est très pieuse. Elle sort à peine du couvent où elle a reçu la meilleure éducation. Précisons que Teresa Guiccioli a pour frère Pietro Gamba, un des membres les plus influents des Carbonari. Vous savez, cette organisation clandestine qui s'opposait au pape et aux Autrichiens et qui était favorable dès cette époque à l'instauration d'une république italienne. Ils avaient quelques décennies d'avance sur leurs futurs compatriotes, ces Carbonari. Ça va avoir de l'importance, ça aussi, pour la suite. Byron, évidemment, faut voir un peu qui c'est. Byron a tout vu, tout connu, il a voyagé partout, il est très riche grâce à ses droits d'auteur. Fini le temps où les huissiers saisissaient ses meubles et vendaient aux enchères sa bibliothèque. Ça, c'était le temps des vaches maigres. Il l'a presque oublié, je dis presque oublié. Il vit à Venise au Palazzo Mocenigo, qui est une des plus jolies demeures qui soit, construite en 1579. Il a sa propre gondole avec ses armoiries. Enfin, vous imaginez un peu la réputation qui peut suivre Byron et qui s'attache à son sillage d'autant plus qu'on cancane volontiers dans la Sérénissime. Il a autour de lui, faut dire, toute une ménagerie qui évidemment n'est pas pour peu dans son, ne compte pas pour rien dans sa réputation. Des chats, des chiens, pourquoi pas, mais aussi des oiseaux exotiques. Il y a même un chimpanzé qu'il poursuit un peu partout. Il aura un loup, un renard en cage. Vous voyez, juste ce qu'il faut pour faire parler de soi, avec là-dessus un train de vie extravagant, bien entendu, 14 domestiques à son service. On peut dire qu'il est difficile de passer inaperçu quand on s'appelle Monsieur Byron, Lord Byron. Alors, avec néanmoins de petits changements qui ont affecté depuis quelque temps son physique. Il a, semble-t-il, prématurément vieilli. Il a attrapé une maladie mystérieuse sans savoir si c'est véritablement la syphilis. On se pose encore la question. Les cheveux sont grisonnants, blanchis aux tempes, le teint du visage est nettement plus pâle qu'autrefois et, chose presque impensable lorsqu'on parle de l'immarcessible Byron, il a des rides. Mais oui, pour la jeune Teresa Guiccioli, Byron n'en reste pas moins l'homme idéal. Il est un héros, héros romantique bien entendu. Lui va s'appliquer bientôt à devenir son chevalier servant.
Un extrait du trio pour piano et cordes numéro 2 de Schubert sur Europe 1. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'une des plus grandes figures du romantisme, Lord Byron.
Alors, le coup de foudre a été immédiat, du côté en tout cas de la jeune femme. Elle en est totalement entichée de son Byron, comme elle dit. Ses manières nobles, écrit-elle, le ton de sa voix, les mille enchantements qui l'entouraient, faisaient de Lord Byron un être si supérieur à tous ceux que j'avais vus qu'il était impossible qu'il ne fît pas la plus profonde impression sur moi. Avec le recul et l'apparente sagesse qui a fini par l'habiter, Teresa n'a pu se déprendre de son Byron. Lui aussi, de son côté, est amoureux. Voilà ce qu'il écrit dans une lettre du 24 avril 1819. Elle est belle comme l'aurore et ardente comme le midi. Rien que ça. Nous n'avons eu que 10 jours pour régler nos petites affaires, du commencement à la fin, en passant par le milieu, et nous les avons réglées. J'ai fait mon devoir et l'union a été consommée comme il se devait. Non mais enfin, c'est quand même... c'est complètement fou cette façon de s'exprimer. J'ai fait mon devoir, bah ma foi, elle n'attendait que ça, alors je l'ai contenté. Une confiance en lui absolument phénoménale. Quelques semaines après la rencontre, Teresa Guiccioli doit suivre son mari pour affaires, sauf que, à peine est-elle arrivée à Ravenne, qu'elle écrit à Byron, il doit absolument la rejoindre, et alors elle ajoute qu'elle vient de faire une fausse couche. Ah, quand même, on est en train de parler à Lord Byron. Il y a des fautes de goût qui ne se commettent pas, vous voyez. Alors il écrit, lui, « Elle est jolie, mais n'a pas de tact. » Elle répond à haute voix quand elle devrait murmurer. Un de ses préliminaires est que je ne dois jamais quitter l'Italie. Je n'ai pas envie, mais je n'aimerais pas à être transformé en un 6-6-BO, c'est-à-dire un 6-6-B, comme nous dirions nous aujourd'hui, un chevalier servant professionnel. Mais le 10 juin, le chevalier servant, néanmoins, et ça montre quand même la puissance d'attraction de la jeune Teresa, le chevalier servant arrive tranquillement à Ravenne. Aussitôt arrivé, il se rend bien entendu dans la maison de son rival, si je puis dire, et il trouve Teresa malade. Elle est là, qui est alitée, elle tousse, elle crache du sang. Quelques semaines après son arrivée, on est le 29 juin 1819, Byron écrit toujours à un ami, il écrit « Elle est affectée d'une toux perpétuelle et d'une fièvre intermittente, mais elle résiste vaillamment. En la perdant, je perdrais un être qui a couru de grands risques pour moi. C'est toujours d'une modestie magnifique. Et j'ai toutes sortes de raisons de l'aimer, mais je ne veux pas penser que cela soit possible. Je ne sais pas ce que je deviendrais si elle venait à mourir. Je devrais me brûler la cervelle. » Ah, tout de même, c'est ce qu'on dit. Lorsqu'elle voit Byron, pour tout vous dire, Teresa va tout de suite beaucoup mieux. On essaie en même temps de la soigner, elle est très très bien traitée, et son mari, le comte Guiccioli, lui fait apporter un poney pour son rétablissement. Pas trop le rapport, mais enfin, ça la divertit, disons. À l'été 1819, Byron et Teresa se retrouvent pour des escapades à travers la Pinède, et le poney va servir d'une certaine manière. Ils rient, ils déjeunent sur l'herbe, ils font l'amour en secret dans les champs de blé. Teresa et Byron prient quand les cloches des vieilles basiliques annoncent l'heure de l'Ave Maria. Il y a bien entendu beaucoup de romantisme, un romantisme tel qu'on pouvait le concevoir dans les îles britanniques, du reste, dans cette liaison avec la belle et jeune Teresa. À l'été 19, Byron et Teresa vont vivre vraiment un moment extraordinaire. Le 24 août, il griffonne sur la feuille de garde d'un exemplaire de Corinne ou Italie de Madame de Staël. Voilà ce qu'il écrit sur la page de garde. « Ma chère Teresa, j'ai lu ce livre dans votre jardin. Vous étiez absente, mon amour. C'est un de vos livres préférés et l'auteur est de mes amis. Bah, » bien entendu. « Vous reconnaîtrez l'écriture de celui qui vous aime passionnément et vous devinerez que, sur un livre qui vous appartient, il ne pouvait songer qu'à l'amour. Toute mon existence présente et à venir est contenue dans ce mot. Beau dans toutes les langues, il l'est encore davantage dans la vôtre, amor mio. Je sens qu'ici, j'existe. Ailleurs, j'existerai, je le crains, pour quelle fin ? C'est vous qui en déciderez, ma destinée repose sur vous. » Ah, ben alors il est amoureux finalement, c'est Lord Byron qui a tout vu et tout connu. Après un passage par Bologne, Teresa va rejoindre Byron au manoir de la Mira à Venise, sous prétexte qu'elle a besoin du climat de sa région. Je n'ai jamais vu de malade ou de convalescent qui ait besoin du climat de Venise, entre nous soit dit, mais en tout cas, elle a besoin du soleil Byron. Son mari n'est pas dupe, mais le comte Guiccioli la laisse faire. Il reste poliment à Bologne. Ça ne peut pas durer néanmoins. Teresa va devoir finir par rejoindre son mari et Byron refuse que le couple se déchire parce que sans doute qu'il se dit que ça pourrait l'entraîner lui un peu loin. Chevalier servant, d'accord, mais pas beaucoup plus. Voilà ce qu'il écrit. « Tel eût été mon avis si j'avais eu 20 ans au lieu de 31, car je l'aimais. Mais si je savais qu'une telle aventure serait pour elle irréparable, que toute sa famille, surtout son père, serait plongée dans le désespoir et qu'un grand tort serait fait à la réputation des autres sœurs, j'arrivais donc à la persuader avec difficulté de retourner à Ravenne avec son mari qui promit d'oublier si elle m'abandonnait. » Oh, on a presque l'impression, sous la plume de Byron, que ce genre de question conjugale n'est somme toute qu'un détail à régler. Il est habitué, n'est-ce pas ? Et il compte ses amours au saut des girouettes. Teresa est partie rejoindre son mari donc, la voilà à Ravenne, mais elle est totalement désespérée. Elle ne mange plus. Elle se laisse dépérir et du coup, son vieux mari lui-même va faire la demande à Byron. « Monsieur, venez, ma femme sans vous n'existe plus. » C'est ça paraît incroyable. D'ailleurs, le père de Teresa, le comte Gamba, qui voit sa fille aller de plus en plus mal, va personnellement faire la demande à Byron de se rendre à son chevet. C'est incroyable, là, le mari et le père s'y mettent. C'est tout à fait inouï. Lorsque Byron arrive, bah, d'un seul coup, Teresa va mieux. Oh, mais elle va même beaucoup mieux puisqu'elle songe à quitter l'Italie pour aller s'établir en Angleterre. Voilà ce qu'elle écrit à sa demi-sœur Augusta. On est là en 1820. C'est Byron qui écrit ça donc à sa sœur. Alors, j'hésite un peu parce que a-t-il eu ou non une liaison très approfondie avec cette sœur ? Ce sera l'une des questions que je vais poser tout à l'heure à Daniel Salvatore Schiffer, mais je préfère ne pas entrer tout de suite, si vous le voulez bien, dans cette affaire-là. Mon très cher amour, 3 ans d'absence, mais je n'ai jamais cessé, ni puis cesser de sentir un seul instant cet attachement parfait, sans limite, qui me lie toujours à vous, qui me rend entièrement incapable d'amour réel pour aucun être humain, car que pourrait-il être pour moi après vous ? Quand même, ça, si ça n'est pas un aveu d'amour transi. Ma bien-aimée, nous avons eu de grands torts, mais je ne me repens de rien, sinon de ce maudit mariage et de votre refus de continuer à m'aimer comme vous m'aviez aimé. Je ne puis ni oublier tout à fait, vous pardonner votre belle crise de réforme vertueuse, cela brise le cœur que de penser à notre longue séparation, et je suis sûr que c'est une punition suffisante pour tous nos péchés. Croire que les 10 péchés n'ont pas été somme toute si capitaux. Quand vous m'écrirez, parlez-moi de vous et dites que vous m'aimez. Ne me parlez pas d'histoires et de gens qui ne peuvent à aucun degré m'intéresser, moi qui ne vois dans l'Angleterre que le pays que vous habitez et autour d'elle que la mer qui nous sépare. En fait, Byron n'a plus qu'une idée, c'est d'aller se réinstaller en Angleterre. Mais en janvier 1820, le chevalier servant est tout de même à Ravenne, auprès de la belle Teresa. On est sous la neige, hein, en janvier 1820, bien entendu. Voilà ce qu'il écrit. « L'amour a vaincu. Je n'ai pu trouver la force d'âme de quitter un pays que tu habites. Je suis citoyen du monde. Tous les pays pour moi se valent. Tu as toujours été, depuis que nous nous sommes connus, l'unique objet de mes pensées. Je croyais que le meilleur parti pour ta paix et celle de ta famille eût été mon éloignement, mais tu as décidé que je devais revenir à Ravenne. J'irai et le ferai et je serai ce que tu voudras. » On a envie de dire, cet homme-là ne sait pas du tout ce qu'il veut. Et en vérité, on peut se poser la question et se demander s'il sait vraiment où il en est. On le voit quand même vivre à l'auberge avant que le comte Guiccioli propose de lui louer un étage vide de son palais. Il est avec sa fille, du reste Allegra, on en va dire un mot tout à l'heure. Byron vit donc maintenant sous le même toit que sa maîtresse. Vous savez qu'avant Daniel Salvatore Schiffer, il faut, pour trouver une biographie de Lord Byron, remonter à André Mauroy, ce qui nous ramène quand même pas mal de décennies en arrière. Voilà ce qu'écrivait André Mauroy. Dès la première semaine, elle lui fit endosser un uniforme brodé et le traîna, l'épée au côté, au bal du marquis Cavalli, son oncle. Elle y voulut entrer au bras du poète. Celui-ci craignait un éclat, mais le marquis, le vice-légat du pape et tous les autres vices furent aussi polis qu'il était possible. Eh oui, on ne reçoit jamais mal un homme comme Byron.
Franck Ferrand,
les grands portraits.
14h-15h sur Europe 1.
Et nous poursuivons avec vous, Franck Ferrand, l'histoire d'amour du grand poète romantique Lord Byron avec la comtesse Guiccioli.
Alors, revenons à notre Byron qui, depuis quelques mois, est un peu travaillé par les idées qui, à l'époque, sont en train de chahuter l'Italie. Il s'est rapproché des fameux révolutionnaires dont je vous parlais tout à l'heure, les Carbonari. Alors on crie « Vive la République !» et « Mort au pape !» et « À bas la noblesse !» Voilà un peu le genre de slogan qui ne peuvent pas déplaire à un romantique échevelé, bien entendu. Il a sans doute, dans cette affaire, été influencé par Pietro Gamba, donc qui est le frère, hein, Pietro, le frère de Teresa. Je vous ai dit tout à l'heure que ce frère était un des membres les plus influents de ces Carbonari. En tout cas, Byron est bientôt reconnu chef du groupe Carbonari de Ravenne. On les appelle les Americani là-bas, sur place. Alors du coup, le Palazzo Guiccioli, où vivent maintenant, sous le même toit, Teresa, son mari, Byron, la fille de Byron, tout le monde est là. Dans le palais... on a l'impression d'une sorte de complot permanent. Hein. On voit les spécialistes de toutes les questions internationales se succéder. On voit bientôt des fusils et des baïonnettes entreposés dans les caves, des dizaines de pistolets, des caisses de munitions, des engins explosifs, des kilos de poudre à canon. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils préparent véritablement une révolution. Mais ce qu'on appelle la Sainte Alliance. La Sainte Alliance, c'est le pape, bien sûr, les états pontificaux, mais aussi, bien sûr, l'Autriche catholique, et puis un certain nombre de plus petits états. La Sainte Alliance envoie une brigade d'espions pour surveiller Byron, qui va bientôt se retrouver assez seul, quand même, dans son palais Guiccioli. En effet, Teresa vient quand même de divorcer de son mari, il était temps, vous me direz. Elle part pour Ravenne, enfin pour les environs. Hein. La voilà partie pour le palais de son père, en vérité. Et Byron, qui lui loge toujours au dernier étage du palais Guiccioli, va passer là un hiver un peu particulier, surveillé, seul. Ça n'est pas le meilleur hiver de sa vie, cet hiver 1820-1821. Et puis, début mars 1821, les Napolitains sont battus par les troupes autrichiennes. Et à ce moment-là, on commence à dresser des listes de suspects. C'est notamment la police pontificale qui s'en charge. Gamba, sa fille Teresa sont bannis des états pontificaux. En juillet 1821, ils vont se réfugier à Pise. Byron est hors la loi à Ravenne. Il est persona non grata en Émilie-Romagne. Il n'a pas tellement le choix et il va les rejoindre à son tour 3 mois plus tard. Et dans les mois qui suivent, à cause des activités politiques de Byron, Teresa et son père vont devoir régulièrement changer de résidence. Ah là, d'un seul coup, ça devient nettement moins amusant tout ça. À Pise, Byron s'est installé à la Casa Lanfranchi, qui est une vieille et imposante demeure médiévale sur les bords de l'Arno. C'est là que sa fille Allegra va mourir. On est donc là en 1822. Byron fait partie de ce qu'on appelle le groupe de Pise, dans lequel se trouvent tous les partisans de la cause grecque. Faut pas oublier qu'on est en pleine lutte de la Grèce pour son indépendance contre l'Empire ottoman. Vous voyez quand même un Byron particulièrement investi dans les grands combats politique de son époque et dans ce qu'il peut y avoir de plus romantique dans cette lutte politique. De nouveau, il faut partir. Au cours d'une bataille avec un sergent-major, le portier de Byron a eu la mauvaise idée d'aller frapper le sous-officier avec une fourche. Il lui a cassé une côte et comme la justice toscane ne peut pas atteindre Byron, elle expulse Gamba et sa fille. Donc en fait, c'est cette pauvre Teresa qui finit par être la victime de toutes les frasques de Byron et de son entourage. Pour la comtesse, on va louer une belle villa patricienne à Montenero, qui est un joli village marin à flanc de colline, on est là tout près de Livourne, et désormais on a l'impression que depuis ce balcon sur la mer, c'est toute l'Europe en ébullition que Byron vient contempler. En août 1822, il écrit à un de ses amis, à Tom Moore, il lui écrit « J'ai encore des projets de voyage en Amérique du Sud, mais j'hésite entre l'Amérique et la Grèce. Je serais parti depuis longtemps, n'était ma liaison avec la comtesse G. » Pour Gamba, évidemment, l'amour de notre temps est peu compatible avec la gloire. L'a-t-il jamais été ? Alors pourquoi la Grèce ? Eh bien, toujours pour échapper à une existence qui, sans cela, pour un Byron, serait morne, bien entendu. Voilà ce qu'écrit Daniel Salvatore Schiffer. Il nous dit « Pour Byron, la Grèce représente depuis le siècle d'or de Périclès, depuis l'avènement de la démocratie elle-même, le berceau historique et culturel de cette civilisation à laquelle il était fier d'appartenir et depuis sa plus tendre enfance, il rêvait de faire partie de cette catégorie d'hommes réputés supérieurs qu'étaient à ses yeux les héros de l'Antiquité grecque. »
Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand, vous nous parlez cet après-midi de Lord Byron et des romantiques avec votre invité Daniel Salvatore Schiffer, philosophe et essayiste, auteur de Lord Byron aux éditions Gallimard.
Bonjour Daniel Salvatore Schiffer, merci d'être avec nous. Vous étiez venu nous parler plusieurs fois déjà à ce micro de, bien sûr, d'Oscar Wilde, qui est un peu une passion que nous avons en commun, et vous réservez à Byron un ouvrage tout à fait inspiré. On sent que c'était une biographie qui vous brûlait les doigts, si je puis dire. On va y venir dans un instant. Un mot peut-être de ce qui s'est passé avec la pauvre Teresa Guiccioli. Évidemment, vous avez bien compris que Byron est de moins en moins amoureux, la politique s'en est mêlée. Quand je dis la politique, d'autres femmes également. Je pense notamment à Lady Margaret of Blessington, qui à ce moment-là va l'accaparer davantage. Il prendra finalement bien le bateau pour la Grèce. Et là, il va falloir dire au revoir. Et que dis-je ? Il va bientôt falloir se dire adieu. C'est le 12 juillet 1823 que Teresa dit adieu à son chevalier servant, qui part donc pour la Grèce à bord d'un navire, ça ne s'invente pas, qui s'appelle l'Hercule. Il y a avec Byron, le frère de Teresa, il y a son valet, son domestique, un docteur, et puis bien sûr, tous les animaux, toute la ménagerie qui transforme le navire en arche de Noé. À partir de cette minute, on peut dire qu'elle ne le reverra plus jamais. Daniel Salvatore Schiffer.
Exactement, il part pour la Grèce. Il va aller se battre aux côtés des Grecs pour l'indépendance de la Grèce, qui est sous le joug de l'Empire ottoman. Et il va financer la rébellion grecque. Il va payer de sa poche les guerriers grecs, notamment 2000 souliotes, il va dépenser pour la Grèce à l'époque, tenez-vous bien, l'équivalent de ce que Napoléon Bonaparte a dépensé pour sa campagne d'Italie. Sauf que Napoléon, c'était l'empereur, c'était la France. Là, c'est l'argent personnel de Byron.
Privée,
c'est une fortune privée. Ce sont ses droits d'auteur et puis ses propriétés qu'il a vendues. Newstead, Rochdale, ses manoirs, ses châteaux qu'il a vendus pour financer les Grecs.
Avec des plus-values, entre parenthèses, considérables.
Absolument.
Et il y a chez Byron l'âme d'un homme d'affaires, incontestablement, oui. Et l'on peut dire sans doute que tout cet or qu'il répand sur son passage explique aussi la très grande complaisance dont font preuve les maris bafoués, les familles bousculées. Finalement, on tolère chez Byron bien des choses parce qu'il est riche également. Il est très prestigieux intellectuellement, mais il est aussi très riche matériellement.
Il est très riche. Vous avez justement rappelé que Byron vit, par exemple, toujours dans le palais de Guiccioli alors que Thérèse a part, mais il paye un loyer très très cher. C'est pour cela que le mari accepte. Byron, en plus, est un lord. Donc il est intouchable. Il est prestigieux et intouchable. Et donc il met cette armada, cette flotte grecque sur pied, des bateaux. Des bateaux remplis de munitions, remplis de guerriers, et il va mourir effectivement quelques années plus tard, sans jamais plus revoir ni l'Italie, ni son pays natal, l'Angleterre. Il meurt à l'âge de 36 ans.
Pour clore ce chapitre de Teresa Guiccioli, qu'est-ce qu'il reste d'elle dans la vie de Byron ? Quelques écrits quand même.
Oui, bon, il y a une correspondance, pas mal de lettres sont dans ma biographie. Là.
Oui, bien sûr.
Ce que Teresa
nous y avons puisé, comme vous avez pu voir.
Bien sûr, ce que Teresa écrit à Byron et ce que Byron lui écrit. Mais Teresa a écrit aussi ses mémoires, publiées en Angleterre par Murray, qui était le premier éditeur de Byron, John Murray. Et donc, il y a les mémoires de Teresa Guiccioli qui racontent sa vie avec Byron. Bien sûr, cela aussi figure dans ma bibliographie. Mais à part cela, il ne reste plus grand-chose de Guiccioli, sinon que Byron, parce qu'il était son chevalier servant, l'a immortalisé. Il y a une très belle chose, quand ils sont à Ravenne, ils vont tous les jours s'incliner sur la tombe de Dante, du grand Dante, qui a écrit la Divine Comédie, puisque Dante est inhumé à Ravenne, lorsqu'il a été lui aussi exilé, chassé de Toscane, comme Byron l'a été d'Angleterre.
Nous verrons tout à l'heure tout ce qu'a pu faire Byron sur un plan politique et puis nous n'allons cesser d'évoquer bien entendu son œuvre car il ne faudrait peut-être pas oublier laisser passer le poète derrière le grand romantique. Tout ça est très lié bien entendu, tout ça n'est qu'un souffle, n'est qu'une vie. Sur les femmes quand même, arrêtons-nous un moment puisque j'ai choisi ce chapitre, cet angle et notamment cette aventure avec la jeune et belle Teresa. Je dis jeune parce qu'elle avait 12 ans de moins que lui. C'est pas le plus gros écart qu'on ait constaté du reste. Hein. Il a eu de très jeunes femmes dans sa vie.
De très jeunes femmes. La première femme qu'il aimait, elle avait 15 ans. C'était une cousine d'ailleurs. Chez les Byron, chez le père de Byron
déjà. Il en avait 20, faut dire à l'époque.
Oui,
hein.
C'est ça, voilà. Alors, est-ce que c'était platonique ou pas ? Peu importe. En tout cas, il a eu très vite des aventures, des liaisons amoureuses avec de très jeunes femmes. Et vous avez rappelé qu'il a vécu au Palazzo Mocenigo. Le palais Mocenigo est un des plus beaux palais sur le canal Grande, sur le grand canal de Venise. Aujourd'hui, si vous allez à Venise, vous verrez une pierre, une stèle qui immortalise ce palais où Byron a vécu. Là, Byron a vraiment vécu la vie de Casanova. Il était vraiment Don Giovanni, Don Juan. Hein. Je me souviens du film de Joseph Losey, le Don Giovanni se passe à Venise. C'est vraiment Casanova.
Et pour le coup, la biographie de Mauroy reprenait cette...
Oui, parce que c'est un sujet...
Cette appellation
important.
De Don Juan.
Oui, bien sûr, c'est Don Juan, la vie de Byron. Et puis surtout, c'est au Palais Mocenigo que Byron entame la rédaction de ce qui est peut-être son plus grand poème. Ce sont 18 chants, c'est un vrai poème épique, une vraie épopée qui est Don Juan. Tout le monde connaît le Don Juan de Molière, le Don Juan de Tirso de Molina, le Don Juan authentique, le Don Giovanni de Mozart, le livret de Da Ponte. Mais on oublie que peut-être que le plus beau des Don Juan est de Byron. Ce sont 18 chants, le dernier est inachevé.
C'est le plus inspiré.
C'est le plus inspiré, c'est aussi le plus ironique, où Don Juan n'est pas seulement un séducteur, mais il est aussi la victime des femmes. C'est lui-même. Il se met en scène à travers le personnage de Don Juan.
Il est ce Don Juan-là, en tout cas.
Absolument.
Des personnes comme Lady Caroline Lamb l'ont fait souffrir, quand même.
Oui, absolument, absolument. Il a été très amoureux de Caroline Lamb, et puis il la laisse, à un moment donné, avec une lettre extrêmement... Byron n'était pas très élégant avec les femmes. La seule femme qu'il ait véritablement aimée, vous y avez fait allusion, c'est sa demi-sœur.
C'est
sa demi-sœur. Alors, est-ce qu'il y a eu inceste ou pas ? Ça, c'est une vraie question. à lire les lettres.
En tout cas, ce qu'on a lu tout à l'heure, là, c'est un amour effréné.
Et puis, à part les lettres, il y a aussi les épîtres et les stances à Augustin qui sont des poèmes, qui ne laissent planer, à mon avis, aucun doute. Et puis, une fille quand même qu'ils ont eue ensemble, oui. Médora, qui est d'ailleurs, donc c'est la première fille que Byron ait eue, c'est avec sa demi-sœur Augusta. Augusta est née Byron, ils avaient, elle et lui, le même père, mais pas la même mère. C'était une Byron. Donc ils n'ont pas vécu ensemble, ni pendant l'enfance, ni pendant l'adolescence. Il a déjà 20 ans, et il voit une femme éblouissante, superbe, il sait à peine que c'est sa demi-sœur.
C'est ça, oui, sans doute.
Donc, il en tombait éperdument amoureux parce qu'il a toujours été gêné des Byron. Son père était un coureur de jupons, un type violent, on l'appelait Jack le Fou, Mad Jack. La mère de Byron, une écossaise, était une femme tyrannique, violente, cyclotymique, bipolaire. C'est ce qui provoque d'ailleurs chez Byron sa misogynie, c'est le mauvais souvenir qu'il a de sa mère. Donc, Byron trouve chez Augusta la plus belle et la meilleure partie des Byron. Et donc, lui, en tant qu'esthète et intellectuel très cérébral, en tombe éperdument amoureux, et c'est réciproque. Ils ont, je pense, une fille qui s'appelle Médora, mais elle ne porte pas le nom de Byron, et parce oui. qu'Augusta est mariée avec le colonel Leith, qui est un Osgoard, donc du roi d'Angleterre, et donc c'est tenu secret. Et lorsque Médora naît, elle porte le nom du mari d'Augusta, Augusta Leith, L-E-I-G-H. Mais à lire la correspondance de Byron, à lire ses poèmes, et puis surtout la raison pour laquelle la femme de Byron, sa femme officielle...
Ah mais j'allais dire, est-ce qu'on peut quand même préciser qu'il a été marié,
a été marié avec Annabella Milbanke, qui est une dame pas de la noblesse, mais de la haute bourgeoisie, très très riche, et c'est elle qui finit par demander, non pas le divorce, parce que dans l'Angleterre anglicane c'est interdit, mais la séparation de biens...
Au bout de quoi, un an, hein.
Oui, c'est ça, qui correspond à un divorce. Alors, elle demande ce divorce, enfin cette séparation, pour deux raisons. La première, c'est qu'elle accuse Byron de pratiques sexuelles inadéquates, c'est-à-dire la sodomie. Ça, c'est Byron qui le dit à son ami Tom Moore. Hein. Il le dit, on m'accuse de cela. Et puis, la deuxième chose, c'est parce que Annabelle ne peut plus supporter la liaison que Byron a avec Augusta. Augusta vient habiter chez Byron, sous le toit de Byron, il vit avec sa femme, Byron Annabella. Il renvoie sa femme.
Ils ont une fille, Ada d'ailleurs.
Ils ont une fille, Ada, c'est la deuxième fille de Byron. En fait, Byron a eu trois filles.
Mm-hmm. Hein, il a eu celle que nous avons vue mourir, la pauvre petite, là,
à 5 ans. Donc mm-hmm. il a d'abord eu Médora avec sa demi-sœur Augusta. Il a ensuite eu Ada
avec son épouse,
qui deviendra Loveless, mm-hmm. la femme du comte Loveless. Et puis une troisième, Allegra, qui n'est autre que la fille de Claire Clermont, qui est une de ses maîtresses. Claire Clermont est la belle-sœur de Shelley, du poète Shelley. Parce que lorsque Byron est chassé d'Angleterre, banni d'Angleterre suite à ses vicissitudes et aux différents scandales, Byron quitte l'Angleterre, il part d'abord pour la Suisse, à travers la Belgique et l'Allemagne, il contourne la France. Byron n'a jamais mis les pieds en France à cause de ses sympathies pour Napoléon. Donc Byron est interdit de séjour en France. Donc il passe en Suisse à travers l'Allemagne. Et là, il vit à Genève, où Claire Clermont, sa maîtresse, vient le rejoindre avec Shelley et Mary Godwin, qui deviendra la femme de Shelley. Et là, Byron, Shelley, la femme de Shelley et Claire Clermont vivent pratiquement ensemble à Genève. Et Byron et Claire Clermont ont un enfant. C'est la troisième fille, c'est Allegra, qui va mourir de la fièvre typhoïde à l'âge de 5 ans. En Italie, lorsque Byron aura quitté la Suisse.
Vous avez dit tout à l'heure que la misogynie de Byron était à expliquer à travers la relation qu'il entretenait avec sa mère. Oui. C'est peut-être le plus important, finalement.
C'est ça, voilà. Quand Byron a 3 ans, son père, Jack le Fou, Mad Jack, donc, quitte le foyer conjugal. C'est un coureur de jupons, un bagarreur, un ivrogne. Il est violent et donc il quitte la maison familiale en Angleterre. Il part pour Paris et il finira sous les ponts, comme un clochard. Et donc la mère de Byron joue à la fois le rôle de mère et le rôle de père. Et elle est très sévère avec lui. Et puis il ne faut pas oublier, ça c'est extrêmement important, que Byron, lorsqu'il naît, il a un pied beau. Sa mère s'en rend compte lorsque Byron a 1 an. Au moment où il doit apprendre à marcher, il titube, il a mal, il boite. Et donc sa mère se rend compte qu'il a un pied beau. Or sa mère ne supporte pas ça. Elle voulait un petit enfant superbe.
Parfait.
Et on appelle Byron le petit diable boiteux. Ce qu'on disait là de Talleyrand.
Oui.
De Talleyrand. C'est comme ça que l'on surnomme Byron. Et Byron va souffrir toute sa vie de cela. Et donc, sa mère va le contraindre, va lui mettre un moule en bois pour reformer son pied qui va lui causer des souffrances atroces. C'est un véritable supplice médiéval. Et donc, Byron va détester sa mère, violente, physiquement et psychologiquement. Ce qui va générer en lui cette misogynie. Mais en même temps, vis-à-vis des femmes, il n'y a pas que cela. Parce qu'il y a ce syndrome d'abandon vécu par Byron à cause de l'abandon de son père. Donc, il va se réfugier chez les femmes qui sont à la fois des êtres chez qui il va rechercher le réconfort, un lit douillet, mais en même temps la sévérité. Donc c'est extrêmement ambigu le rapport que Byron a avec les femmes.
En quelques instants, nous allons donner à nos auditeurs un certain nombre de repères pour bien saisir qui a pu être ce Lord Byron.
Le poète britannique Lord Byron et les romantiques sont au cœur de l'histoire cet après-midi. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité, le philosophe et essayiste Daniel Salvatore Schiffer, auteur de Lord Byron aux éditions Gallimard.
Alors, précisons peut-être un peu les choses pour nos auditeurs. Byron est un des grands romantiques, au même titre évidemment que Chateaubriand, hein, par exemple. D'ailleurs, c'est Audrey qui nous dit via Facebook, hâte d'en apprendre davantage sur cet homme dont le nom pour moi reste associé à celui de Mary Shelley et de la genèse suisse de Frankenstein. Et oui, car c'est chez Byron que naît Frankenstein. Hein.
Exactement. Quand Byron quitte donc l'Angleterre en
18... Pourquoi la quitte-t-il, peut-être il faut le dire.
Il la quitte parce qu'il est banni. Sa femme, Annabelle, la demande donc, Milbanky, la séparation à cause de sa liaison avec Augusta, la demi-sœur. Donc l'inceste est pratiquement avéré. Il est obligé de quitter l'Angleterre tellement le scandale est grand. Il défraye la chronique et il part pour la Suisse d'abord. Et il s'arrête sur le lac Léman à Genève. Là vient le rejoindre son grand ami Percy Bysshe Shelley, l'autre grand poète romantique, avec sa femme Mary Godwin. Ils ne sont pas encore mariés, Shelley et Mary. Mais ils vont se marier un an après. Elle va devenir donc Mary Shelley. Et là aussi Claire Clermont, qui est la demi-sœur de Mary Godwin, donc la demi-sœur de Shelley. Et dans la maison de Byron, sur le lac Léman, un soir, c'est l'hiver, ils s'ennuient, ils sont tous les quatre, et Byron lance une idée. Il parle de fantômes, il parle de revenants. Et il dit, et si nous écrivions sur les fantômes, sur les revenants, sur les spectres? Et Mary Godwin, la future Mary Shelley, le prend à la lettre. Elle quitte la maison de Byron parce que Shelley avait une maison juste à côté. Et là, elle se met à écrire un livre qui va devenir Frankenstein. Frankenstein est né chez Byron, sur le lac Léman de Genève, peut-être le livre le plus adapté au cinéma. Donc ça se passe, c'est une idée en fait lancée par Byron. Puis Byron lui a abandonné l'idée, il s'est livré à donner à ses poèmes, Childe Harold, son grand chef-d'œuvre à mon sens. Mais effectivement, votre interlocutrice a raison.
Audrey, oui.
Audrey, Frankenstein est né chez Byron.
Byron est un des grands romantiques, je disais, avec Chateaubriand. Il faudrait ajouter Goethe, bien entendu, qui est un peu leur grand frère à tous, si je puis dire. Ils vont tous épouser ce mouvement qu'on appelle le romantisme. Hein, en allemand, c'est le Sturmundrang. On est dans ce romantisme, dans ce brassage de grands sentiments, de grandes émotions, cet orage intime, en quelque sorte, qui va donner, d'ailleurs, des émules dans la peinture, dans la musique, etc. Extraordinaire mouvement que ce romantisme au début du 19e siècle.
Vous avez tout à fait raison de rappeler ces trois grands poètes majeurs, Goethe en Allemagne, Chateaubriand en France, Byron en Angleterre. D'ailleurs, Chateaubriand et Byron ont une passion en commun, c'est Napoléon. Mm-hmm. Pour le meilleur et pour le pire, parce que chez Byron, il est très tiraillé comme Chateaubriand. Mais d'ailleurs, Byron et Chateaubriand se sont rencontrés une fois, ça s'est pas très bien passé. Ils étaient rivaux, deux monstres sacrés qui se rencontrent, évidemment. Mais ce qu'il faut dire... Goethe vouait une admiration sans bornes à Byron. La relation avec Chateaubriand était plus conflictuelle, mais Byron et Goethe, il y a une correspondance, d'ailleurs dans mon livre, il y a la seule lettre que Byron a écrite à Goethe lorsqu'il parle pour la Grèce. Mais, le vrai manifeste du romantisme, écrit noir sur blanc, est par Byron. C'est une chose qu'on sait peu. Lorsque Byron fait son premier voyage en Orient, où il aboutit à Constantinople, chez Ali Pacha, il rentre en Angleterre après quelques mois de voyage à Constantinople. Et là, quand il arrive à Douvres, dans le port, il prend une petite auberge avant de rentrer à Londres. Il passe la nuit et la nuit, il griffonne sur son bureau, pratiquement sur un coin de table, ce qui va devenir le manifeste du romantisme. Alors vous avez raison de dire que Goethe est le grand frère, bien sûr, du romantisme, mais le vrai théoricien du romantisme, c'est Byron, où il parle notamment, je le reproduis d'ailleurs, c'est quelques phrases, quelques lignes dans mon propre livre, il met en place les principales idées du romantisme. L'amour, la passion, la mort, la nature. Et puis, le sentiment, le sensualisme, donc le rapport entre l'âme et le corps, qui est extrêmement prégnant, extrêmement fort chez Byron, ça se voit dans toute son œuvre. On peut dire que le vrai théoricien du romantisme, intellectuel, littéraire, cérébral, mais aussi appliqué, parce que chez Goethe, c'est littéraire, c'est poétique, mais chez Byron, il est vraiment appliqué dans sa vie.
C'est ça.
Il vit comme un vrai romantique, Byron.
On peut lui trouver un certain nombre de points communs avec Oscar Wilde, mais le principal de ces points communs, c'est la façon dont il vit. Wilde disait, dans mon œuvre, j'ai mis mon talent, mon génie, je l'ai mis dans ma vie. Oui. On pourrait dire la même chose
de Byron. Exactement, exactement. Je pense d'ailleurs, puisque vous faites allusion à Wilde, que le vrai précurseur du dandysme, j'ai d'ailleurs fait une conférence là-dessus sur le romantisme dandy chez Byron, le vrai précurseur du dandysme et l'un des fondateurs du romantisme, c'est Byron. D'ailleurs, Byron, avant de quitter l'Angleterre, rencontre souvent Lord Brummel. Ils sont contemporains. Brummel est un peu plus âgé, mais ils se rencontrent souvent à Londres, dans les clubs pour gentlemen. Et Byron et Brummel étaient amis. Et d'ailleurs, Byron parle souvent des dandys dans ses journaux.
Byron vient tard. Il ne faut pas oublier qu'il est né en 1788 et qu'il va mourir très jeune, hein, à 36 ans.
Oui, c'est ça. Il naît en 1788 et meurt en 1824. Voilà, donc il est à cheval entre le 18e et le 19e. Il naît un an avant la Révolution française. Donc c'est un enfant des Lumières. Il a une grande passion pour Voltaire. Il vénère Voltaire. Il vénère Chamfort. Son écrivain préféré, c'est La Rochefoucauld. Il ne se sépare jamais des maximes de La Rochefoucauld.
Grand moraliste,
Byron. Donc, il est à cheval à la charnière du 18e et du 19e, exactement comme Chateaubriand. C'est un pré-romantique romantique.
D'ailleurs, là aussi, il y aurait beaucoup de points communs à établir entre Byron et Chateaubriand, avec, du point de vue de Byron, deux aspects qui, moi, m'ont frappé. D'une part, celui d'un éternel fugitif.
Oui, absolument.
Voilà quelqu'un qui est exilé d'Angleterre, qui, vous nous l'avez dit, est interdit de séjour en France, qui est poursuivi en Italie, qui va avoir tous les problèmes du monde jusqu'en Grèce. Oui. Il aura passé sa vie à fuir les autorités, si je puis dire. Et puis, d'autre part, aucune œuvre qui ait marqué l'imaginaire collectif et mondial, si je puis dire. Pour la plupart de nos auditeurs, je pense qu'ils seraient bien en peine de citer une œuvre fameuse de Byron. Pourquoi cette absence?
C'est ça qui est extraordinaire, c'est que Byron est un nom extrêmement connu, illustre, c'est un vrai mythe, comme Homère, mais très peu lu. Alors, deux raisons. C'est qu'il a été très peu publié de son vivant en Angleterre parce qu'il était tellement sulfureux. Il était interdit. Il faut savoir que Don Juan, son grand poème, est publié anonymement. En France, ses sympathies pour Napoléon, lorsque Napoléon est déchu, Waterloo, eh bien, Morne-Plaine, Victor Hugo, eh bien, Byron est interdit de séjour en France, mais on ne le publie pas, non plus. Donc, les œuvres de Byron sont difficilement accessibles en Angleterre, sinon sous le boisseau, et puis en France, elles ne sont pas traduites. Et donc, voilà pourquoi on connaît le mythe Byron. Il entre véritablement dans la légende et dans le mythe, et pourtant très peu lu, alors que son œuvre est immense et son rayonnement est immense. Ses œuvres ont inspiré les plus grands, on va y revenir peut-être, musiciens romantiques.
Bien sûr.
Franz Liszt, Tchaïkovski,
Chopin,
Schumann,
bien sûr.
Mais aussi les peintres, Delacroix, Géricault, Turner en Angleterre. L'aura, l'influence de Byron est immense à l'époque. On n'imagine pas, c'est une véritable star à l'époque. Et le fait qu'il défraie la chronique, le fait qu'il est dans, entre guillemets, tous les médias, pour employer un langage contemporain, fait que, à la fois son aura, mais sa notoriété, sa célébrité, fut-elle sulfureuse, fait que son nom rentre dans la légende et devient véritablement un mythe.
Et puis il faudrait évoquer son goût pour le fantastique, pour l'orientalisme, pour la démocratie, autant d'aspects qui nous le rendent à nous aujourd'hui tellement moderne. Oui. Il est, vous l'avez dit, à la naissance de ce courant qui va s'appeler le dandysme et dont vous êtes vous-même le spécialiste. Je ne peux mieux faire que renvoyer nos auditeurs à votre biographie, Daniel Salvatore Schiffer. Ça s'appelle tout simplement Lord Byron. C'est dans les Folio Biographie. Merci beaucoup de nous avoir amené un peu de Sturm und Drang, un peu de vent, un peu de vastes horizons, de couleurs et d'émotions dans ce studio.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous répondez à la question de Fiona, envoyée via le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Elle aimerait connaître les origines du foie gras.
Alors, qui dit foie gras dit gavage, bien entendu. Alors, la question, c'est la question de l'origine du gavage. Eh bien, figurez-vous qu'on a gavé les animaux, et notamment les oiseaux, depuis très très longtemps. C'était le cas notamment chez les Égyptiens, comme en témoigne un certain nombre de fresques. Je pense notamment au gavage des oies, tel qu'il est présenté sur la tombe de la reine Ti, enfin de Ti, hein, qui est un grand personnage du 25 siècles avant notre ère. Donc, ça remonte très très loin. Et dans la Rome antique, on avait tendance à gaver les animaux avec des boulettes de figues. Donc ça donnait, c'est d'ailleurs entre parenthèses, il faut dire que le foie obtenu s'appelait le yekur ficatum, le foie de figue, mais tellement apprécié qu'on a abandonné yekur et qu'on a désigné simplement le foie par ficatum. C'est à l'origine du terme qui veut dire le foie. Bref, sous nos cieux plus contemporains, si je puis dire, on a continué à gaver les animaux, même après la chute de l'Empire romain. Les populations juives ont perpétué cette tradition dans la partie plutôt vers l'Europe de l'Est. La tradition apparaît en Alsace et en Europe centrale, Hongrie, Bulgarie, etc. aux alentours du 14-15e siècle. Au 15e siècle, Christophe Colomb ramène une nouvelle espèce de céréale, le maïs, qui va beaucoup faciliter cette pratique du gavage. En 1740, il y a une recette du pâté de Périgueux, c'est de la perdrix rouge farcie de foie gras et de truffes noires, donc vous voyez quand même que ça existait déjà. Et puis, alors, puisque il faut quand même finir par répondre tout de même à la question de Fiona et y répondre clairement, l'invention du foie gras tel que nous le connaissons, le foie gras moderne, revient à un certain Jean-Pierre Clos, qui était cuisinier du maréchal de Contade, à l'époque gouverneur d'Alsace. Le maréchal avait trouvé ce pâté de foie gras tellement extraordinaire qu'il avait voulu faire découvrir la recette au roi Louis XVI. À partir de là, évidemment, le foie gras était vendu. Merci beaucoup, Bénédicte. Nous nous retrouvons lundi.